jusqu'à 18h.
Checkez-moi ça, la rafale!
C'est Raph dans le Dash à Choc 88.7.
What I'm getting paid for here is my loyalty.
Je vais essayer d'imiter un peu la publicité qu'on vient d'entendre. Il est préparé à tout, il a toutes des choses de côté, il est prêt, il est armé, mais pour faire de la chasse à l'ours. Salut Martin!
Salut, comment ça va?
Ah, ça va, excuse-moi, la nouvelle publicité de gouvernementale, gouvernement fédéral, je la trouve un peu intense.
Écoute, on va se faire des bunkers, on va rentrer des
non, mais ramen c'est ça. Là-dedans. Mais oui, mais c'est ça, mais la guerre est en Ukraine, là, puis c'est pas au Canada, là. Il faut pas trop...
Tout pour rassurer.
Ouais, non, c'est ça. Préparez-vous à avoir de la nourriture de côté. Préparez-vous à avoir de la viande de gibier. Écoutez, là, on va se calmer.
Mais tu sais, je veux dire, on va se le dire, c'est la solution, apprenez à chasser.
Ben oui, ben effectivement. Effectivement, apprenez à chasser du yèvre, comme ils disent, ailleurs.
Exact, des jeuves.
Des jeuves. Parlant de jeuves, c'est pas de ça que tu voulais nous parler. Pas en tout, tu voulais nous parler de la chasse à l'ours, mais avant tout, là, tu veux nous parler de l'équilibre et tout ça, mais... C'est pas tout le monde qui savent c'est quoi un cheptel. J'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi.
Bien, quand on parle d'un cheptel, on parle d'une population. C'est-à-dire que si on parle du cheptel de serre de Virginie, d'une région, bien, on en réfère aux différents groupes de cette région-là qui, ensemble, forment une population. Donc, quand on parle de s'occuper du cheptel, dénombrer le cheptel, il y a une problématique dans le cheptel, on s'adresse à cette population-là d'une région. Donc, on pourra parler, mettons, du cheptel provincial ou du cheptel régional dans un certain secteur où il y a un cheptel dans ce coin-là. On fait appel à un groupe d'animaux, si on le veut,
là. OK, parfait. Puis là, tu veux nous parler de l'équilibre des cheptels par rapport à la chasse à l'ours?
Bien, surtout parce que la chasse à l'ours, c'est une chasse qui est souvent regardée par le public non chasseur. Ouais, l'ours, lorsqu'il marche, ressemble, on va se dire, là, ressemble souvent à un chien. Il ressemble à quelque chose qui... On a tous eu une peluche d'ours. Il y a Yogi l'ours. Il y a une affection de la population envers les ours qui est quand même assez grande. Puis, souvent, quand on va diffuser des chasses à l'ours, ben, ce sont les chasses qui se font le plus pointer du doigt. Puis,
je comprends pourquoi.
Oh, oui, définitivement.
Si alors, c'est un prédateur, si... là, on parle pas d'un cerf ou un chevreuil.
Ah non, mais je vous invite à aller faire un colleux à un ours comme vous le faites avec un teddy bear dans votre lit. Vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu différent.
Ouais.
Définitivement, l'ours, c'est un prédateur. Est-ce que c'est un prédateur qui est en surpopulation? Ben, c'est très régional comme question ou comme réponse, si on le veut. Dans le sens où est-ce que, comme pour tous les autres animaux, il faut comprendre que il y a tout de même une gestion de l'ours qui se fait. Il y a des plans de gestion pour les différents animaux. On va pas dans le bois pour on tire sur ce qu'on veut, puis on récolte des animaux suivant un plan de gestion. L'ours noir au Québec est sous surveillance dans certains secteurs par rapport à sa surabondance et l'effet qu'il va avoir sur les cheptels de la région. Même chose pour le loup, par exemple, dans des nouvelles que vous avez vues dans les derniers temps, dans le parc des Laurentides, dans la réserve faunique des Laurentides, hein, on porte un œil très, très, très critique à la situation du caribou forestier. Et puis, en réponse à ça, le ministère a engagé plusieurs de ce qu'il considérait comme étant les meilleurs trappeurs de la province, leur ont donné des cours avancés pour, et ça a été présenté comme ça, là, quasiment éradiquer la présence du loup dans la réserve faunique des Laurentides pour permettre aux caribous forestiers de survivre, ce qui a été très mitigé au niveau de l'opinion des chasseurs, des trappeurs, parce que pourquoi t'anéantirais une espèce pour en faire survivre une autre, qui est quittée pour faire ce choix-là, première des choses. Deuxième des choses, dans ce cas-là, on se posait toute la question à savoir, mais quel calcul y a été fait lorsque beaucoup de biologistes nous disent que ce cheptel-là est déjà perdu. Néanmoins, ce qu'on faisait, c'est que quand on veut préserver un cheptel de gibier qui, entre parenthèses, sont des proies, comme le petit gibier, comme les cervidés sont, mais ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va regarder c'est quoi les causes de mort. Est-ce qu'il y a une baisse dans la capacité de soutien du milieu dans lequel il vit? Hein? Est-ce qu'il y a trop de coupes forestières, il n'y a pas assez de bouffe? Est-ce qu'il y a surchasse? Est-ce qu'il y a surprédation? Puis on va adresser. Alors, la chasse à l'ours au Québec, on l'a fait, oui, pour aller chercher la viande de l'ours, puis les éléments que l'ours a à nous offrir aussi. Hein? Bon, il y a des éléments là-dedans comme, par exemple, la graisse d'ours qu'on va servir pour imperméabiliser des vêtements, des bottes, des ci, des ça, sa fourrure, ses griffes. Les peuples des Premières Nations sont un exemple dans l'utilisation optimale des parties, entre autres, de l'ours, au niveau de l'artisanat, au niveau de la confection de plusieurs produits. On va en consommer la viande qui est très bonne. Si on la consomme pas, on va la donner à un chasseur généreux qui la prend maintenant. Si vous n'avez jamais mangé du smoked meat de fesses d'ours, vous manquez de quoi dans votre vie?
Ce qui est drôle, c'est que récemment, il y a une connaissance à moi qui me dit « On m'a toujours dit que de la viande d'ours, c'était pas mangeable. Ouais, » Sauf que ça dépend de ton cuisinier. Là. Si tu l'as mal apprêté ou qu'il t'a mis ça pour que ce soit bien, bien sec, c'est sûr que tu n'as pas eu de fun. Mais c'est vraiment une viande qui est délicieuse puis c'est une viande qui n'est pas grasse du tout. Là.
Ouais. Ben, n'importe quel steak, entre parenthèses, je vais te présenter ça comme une semelle de botte. Ça sera pas trop long de s'en avoir de coincé entre tes dents. C'est quoi cette histoire-là?
C'est clair.
Je vais te le faire fondant. Ils vont prendre une pièce persillée. Je vais te la faire fondant. Tu vas faire, c'est non, mais bon, du steak. Ça a tout un rapport avec la façon dont on l'apprête. Mais tu sais, l'ours, on le chasse pour ça, donc pour ramener cette venaison-là à la maison. Mais on le chasse aussi par déprédation, un peu comme on trappe le loup, un peu comme on trappe le coyote, le lynx, par exemple. Par déprédation dans des secteurs qui sont des unités de gestion. Pour les trappeurs, on les appelle comme ça, des unités de gestion. Et un trappeur, c'est un trappeur gestionnaire. C'est la raison pour laquelle il le fait. Et le trappeur est d'ailleurs présent aussi dans la déprédation pour l'ours. Donc, on met à profit les efforts des chasseurs et des trappeurs pour contrôler. On veut pas éradiquer, jamais, jamais, jamais. On veut contrôler. De toute façon, avec la population d'ours qu'on a au Québec, le prélèvement qui se fait représente un faible pourcentage de la population d'ours. Mais on va amoindrir l'effet de la prédation sur, par exemple, dans un secteur, le cerf de Virginie. Puis ça, toutes les années, quand on se fait pointer nos reportages de chasse à l'ours sur Internet, il y en a toujours un dans la gang qui finit par aller republier les fameux vidéos où est-ce qu'on voit des ours finir de sortir le bébé chevreuil de la femelle ou partir avec un Bambi dans sa bouche avec une sacoche à poids, là, un Bambi encore avec ses poids, là, pour faire comprendre qu'il s'alimente de ça. Hein, oui. L'ours au printemps va sortir d'hibernation. Il va, excusez-moi, mais flusher son bouchon rectal ou le bouchon muqueux qui lui bloque la sortie du rectum pour garder sa nourriture dans son ventre pour passer l'hiver avec qu'est-ce qu'il y a en réserve dans son ventre. Puis dès que c'est fait, là, il va manger des fibres pendant ce temps-là. Mais la minute que c'est fait, là, il cherche de la viande. Là. Il cherche vraiment de la viande. Puis tu sais, je sais pas, un ours court pas après une perdrix.
Un ours
va courir avec quelque chose de plus substantiel.
C'est ça. Non, il veut de la bouffe, là. Il veut de la chair.
Ah, définitivement. C'est le meilleur omnivore de la forêt. Le meilleur omnivore dans le sens qu'il va manger des brindilles, des branches, des bouts, des bleuets. On sait que ça mange des bleuets beaucoup, beaucoup, beaucoup de toutes sortes de petits fruits, de l'herbe. Mais il a besoin de viande aussi. Donc, on va faire cette chasse-là pour, en partie, contrôler son effet sur les cheptels animaliers. Sinon, c'est aussi une des plus belles chasses de relève qui peut exister. Puisque c'est une chasse qui est pas compliquée. Ça demande pas beaucoup chasser l'ours. C'est un peu malheureux de dire qu'on pogne un ours par son ventre en embuscade, mais c'est un peu ce qu'on fait pour chasser.
Ben, rendu là, un ours, on peut comparer ça quasiment à une souris puis la trappe qui va avec. Là.
Ah, littéralement. Ouais. Littéralement. Là, tu sais, je veux dire, on va se dire de manière générale, un ours, on va avoir à l'ouverture, les gens vont aller placer des barils dans le bois, des barils avec des trous dedans, pas assez gros pour que l'ours passe sa patte, juste assez pour qu'il passe ses griffes. Puis on va mettre là-dedans de la bouffe. Souvent, on va essayer d'utiliser, c'est une moulée qui est formulée un peu comme des barres tendres.
Okay.
C'est très agglutiné. On met ça là-dedans, ou on va mettre du gâteau, ou du pain, ou des trucs comme ça. Puis l'ours, c'est obligé vraiment de travailler là, en sortant ça par le trou, là, les trous qu'on a fait dans le baril. Fait que ça permet à l'ours de rester plus longtemps. On va filmer avec donc les caméras de chasse, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur le spot. Fait que ça va nous permettre de... Les ours vont développer une habitude, ils vont venir... C'est pas rare de voir, ah oui, le gros avec la tache blanche sur le bord de la face, lui, il vient le soir à 6 heures. Ils prennent une habitude à ce point-là.
Ils ont une bonne routine.
Ah, littéralement. Fait qu'à la limite, ça va me permettre même de cibler quel ours je vais aller récolter, pas seulement pour le permis, mais avec l'arrière-pensée de déprédation. Alors, je vais aller chercher un grand mâle, un gros mâle qui est capable de terrasser une femelle chevreuil sans aucun problème, et c'est ça que je vais aller collecter. On ne touchera pas aux femelles avec des bébés, évidemment, parce qu'on veut un renouvellement quand même. On veut un certain recrutement. On veut préserver cette chasse à l'ours-là. Mais c'est ça. C'est la principale façon. Là. Il y a aussi des gens qui sont assez téméraires pour chasser l'ours sur le cowl. C'est-à-dire qu'ils vont soit aller confronter ou caler le veau chevreuil blessé. C'est très rare. Il y a quelques guides dans la province de Québec qui le font.
OK, on cale pas l'ours. Là, on cale l'orignal ou on cale le chevreuil, le cerf.
Il y a des cales d'ours qui se font. Vraiment des râlements d'ours qui se font. Les ours aiment les ours. Ils vont aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais il y a vraiment un cas de veau blessé qui va permettre une approche. Oui. Puis c'est assez impressionnant là, de voir un ours se lever sur ses deux pattes, regarder dans ta direction, puis se mettre à claquer des dents. Là, parce que ça claque des dents avant d'attaquer un ours. Là. Tant qu'il n'a pas claqué des dents, généralement, cassez-vous pas trop la tête. Là. Mais quand il est debout, ça commence à faire... Là, ça va brasser. Les guides qui sont spécialisés là-dedans vont vous faire vivre l'expérience. Essayez pas ça à la maison dans vos premières épopées de chasse, là, parce que ça peut être assez traumatisant. Là. Donc, on va pouvoir avoir une approche, une chasse de proximité. Mais déjà, quand on est en tente ou en cache, qu'on chasse sur un baril, sur un site qu'on appelle appâté, ben c'est super pour la relève parce que le mentor peut être avec le jeune dans la cache puis prendre le temps. Parce qu'en parlant doux dans la cache, il n'y a pas de problème. L'ours, s'il est moindrement éloigné, je vais avoir le temps de dire « Bon, Raphaël, c'est celui que tu voulais ». Il est rendu. Là, commence à t'épauler tranquillement, dépose ta carabine, enlève ton cran de sécurité. Seulement quand tu seras rendu à tirer, regarde dans ta lunette de visée, installe-toi, sois à l'aise, puis si t'es pas à l'aise, on laisse partir. C'est pas grave. On peut faire cette discussion-là à basse voix si on n'est pas trop de proximité. Ça me permet de t'amener vers une première collecte de gibier.
Mais surtout qu'il faut propre. Respecter l'animal. Là. Si jamais on le voit, il ne faut pas se dépêcher à tirer. Il faut attendre
non,
respecter la bête aussi. Il ne faut pas la blesser. Là.
Oui, puis sur un baril où est-ce que l'ours se nourrit puis il est habitué, là, inquiétez-vous pas que vous allez le voir faire des pirouettes, voir de la mélasse jusque dans le front. Il se lève sur ses pattes. Il va jouer alentour. Il va prendre 10 000 positions différentes pour essayer d'aller chercher la moindre petite garnaille de bouffe qu'il y a là-dedans. Fait qu'on a le temps en masse. C'est pour ça qu'on sert souvent de la chasse à l'ours comme chasse de relève, parce que ça permet de donner une belle première expérience qui n'est pas négative, parce que le jeune ou le nouveau chasseur, parce que la relève, ça peut être de 0 à 99 ans, même plus que ça s'il le faut, ça me permet de te faire faire un premier tir qui va être satisfaisant, dans le sens où est-ce que tu vas tellement avoir le temps de te placer que tu vas pouvoir tirer de façon à ce que ce soit mortel, bref, prompt, qu'il n'y ait pas trop de souffrance. Ça va tenter de revenir. Alors que si on y va à toute vitesse, qu'on tire à peu près n'importe comment, ça se met à se lamenter puis à courir dans le bois, tu ne triperas pas.
Non.
À l'ours, on a le temps de t'installer, de te faire tirer puis de faire de quoi qui est très bien comme récolte.
Ben, j'imagine que si tu nous parles de la chasse à l'ours, c'est parce que ça s'en vient bientôt, là, le temps.
C'est dans les premières chasses. Les deux premières chasses qui ouvrent sont les chasses à l'ours et la chasse aux dindons sauvages. D'ailleurs, pour les intéressés, demain soir, là, on a beaucoup de questions qui rentrent au niveau du matériel pour le dindon sauvage. On en a parlé la dernière fois ensemble un peu, qu'est-ce qu'il y a à acheter. Mais là, les gens nous posent des questions plus précises. Là. Mon ardoise, j'achète-tu vraiment ma POC, j'achète-tu vraiment en ardoise, en vitre, en métal, en ci, en ça. On a une référence, nous autres, de qui on sert, qui est Guillaume Tanguay de Gobblers Canada. On l'a demain en live sur ma page à 19h. On parle rien que de ça. C'est quoi la différence entre tel câble, quoi acheter, comment les utiliser, puis une couple de techniques. Avec 19h sur ma page demain, là, ça, c'est dans les deux premières chasses. Puis tu vois, dans les semaines qui suivent, là, on fait des lives sur l'ours beaucoup, beaucoup pour vous donner de la technique aussi. Comment nourrir, comment les faire, ces barils-là, c'est quoi les meilleures bouffes à utiliser. Y a-t-il des leurres d'attrait sexuel qu'on peut utiliser à l'ours, comme des phéromones, par exemple, ou des urines? Ça existe-tu? Puis si oui, comment les utiliser? On va faire le tour de ça dans les prochaines semaines, beaucoup. Là.
Bon, ben c'est noté, Martin Bourget. Donc, sur ta page Facebook à toi, aussi d'Aventure Chasse-Pêche, j'imagine qu'on va pouvoir retrouver
absolument.
Ça. Donc,
le
demain...
groupe Godbrousse, évidemment, aussi. La gang de filles de bois aussi qui sont en live, vous le savez, dans 20h, tout de suite après. Là.
Donc, demain, 19h.
Exactement.
Bon, ben c'est good. Ben, merci pour toute cette information-là. Puis, que vous soyez chasseur ou pas, en tout cas, moi, je le suis pas, puis j'en ai appris.
Ben c'est bon.
Je te souhaite une très belle journée. On se dit à dans deux semaines. Ah, puis la semaine prochaine, ta copine va être des nôtres.
Ben oui.
Ben oui.
Kate Nadeau-Mercier elle-même va être avec toi. Tu vas avoir la fille de bois en onde dans ton émission. On a parlé ça de la semaine prochaine.
Fait qu'on alterne entre le gars de brousse puis la fille de bois.
C'est correct. On va se mettre à se compétitionner.
Bon, ben c'est good. Bon, ben puis après un an, je vais vous dire c'est qui le meilleur. OK?
Correct.
Je vous agace. Salut, prends soin de toi, Martin.
Salut.
Bye bye. Vous êtes dans Rêve dans le Dash jusqu'à 18h. On retourne en musique.